L'Oz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
L'Oz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Oz Actuali, le nouveau magazine de 48FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce nouveau numéro de L'Oz Actuali, numéro 15 de ce nouveau magazine de 48FM. On se retrouve évidemment avec l'équipe réduite hein, maintenant, puisque ça y est, Adeline nous a quittés définitivement, nous sommes tristes.
Je crois qu'elle reviendra peut-être des fois.
Ouais, elle avait très
envie.
C'est
des promesses, c'est des promesses.
Elle avait envie en plus hein, d'être là aujourd'hui, mais bon. Alors, donc, vous avez... Bonjour Eric, bonjour Caroline.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors nous accueillons aujourd'hui un stagiaire à 48FM, donc bonjour Ilan.
Bonjour.
C'est évidemment, nous aurons un invité et aujourd'hui on va parler de musique, d'instruments de musique avec Rémi Dumas, luthier à Mende. Bonjour.
Bonjour.
Avant de faire un petit peu plus connaissance avec vous dans quelques instants, un petit tour du sommaire d'aujourd'hui. On commencera Eric, on va faire une longue interview en départ et puis ensuite on en retrouvera quelques chroniques et donc tu nous parleras de quoi ?
De mouvement citoyen.
Très bien. Et ensuite nous retrouverons Caroline. Qu'est-ce que tu nous proposeras ?
Une voix citoyenne puisqu'on ne peut pas parler politique en ce moment, que le temps nous est compté. Donc voilà, c'est...
Très
avec
bien.
Eric, nous faisons du détournement de... d'interdiction.
Bravo, je vous remercie.
De la propagande de contrebande.
C'est ça.
Voilà, je vous rappelle que nous ne parlons pas de politique puisque les obligations faites aux médias radiophoniques et audiovisuels s'appliquent et qu'il nous faudrait assurer une représentation équivalente à l'ensemble des forces politiques candidates à l'élection présidentielle. Voilà, vous pouvez toujours suivre évidemment L'Oz Actuali sur les réseaux sociaux avec le hashtag L'Oz Actuali évidemment. Il y aura bien sûr la rubrique hashtag tout à l'heure et la revue de presse. Et juste après cette virgule, on se retrouve pour faire connaissance avec notre luthier. Ça y est, nous sommes de retour, nous sommes prêts. Alors, on va faire connaissance avec vous, Rémi Dumas. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on s'était déjà rencontrés tous les deux sur la tournée Lausanne Nouvelle Vie cet été.
Oui.
Mais on va peut-être toucher un peu plus de gens, plus d'habitués de nos ondes en période classique, on va dire. Peut-être dites-nous un petit peu qui vous êtes, comment on arrive à être luthier à Mende aujourd'hui.
Alors, donc moi je suis pas spécialement musicien initialement, j'avais appris à jouer un peu de la guitare comme tous les adolescents, quoi, disons. Par contre, j'ai tout de suite été passionné dès le lycée, quoi, par les instruments à cordes frottés et le violon en particulier. Et j'avais vraiment une aspiration au travail du bois et c'était vraiment cet instrument-là qui m'attirait tout particulièrement. Et donc, j'ai fait des études dédiées à ça. Et puis, Mende, c'était très pragmatique, puisqu'en fait, mon épouse a trouvé du travail en Lozère. Donc, on est arrivé en Lozère comme ça.
Et pourquoi s'installer à Mende quand on arrive luthier en Lozère ?
Parce que la plus grosse antenne de l'EDML, donc l'École départementale de musique, est à Mende. Donc, c'est là où il y a tous les instruments qui sont proposés. Et il y a d'autres antennes qui sont décentralisées, mais voilà, c'est plus compliqué d'être un peu loin de la préfecture, quoi, disons. En tout cas, c'est là où le noyau culturel est présent. Donc du coup, c'était très logique de se mettre ici, quoi.
Et il y a suffisamment de marché, entre guillemets, en Lozère pour permettre de vivre en tant que luthier ?
On fait avec. Après, c'est vrai que si on travaille uniquement sur la clientèle locale, c'est un tout petit peu limité. Mais vu le, la population qu'il y a sur le département, la quantité de musiciens, finalement, est quand même assez conséquente. Il n'y a pas à rougir de la quantité d'élèves qu'il y a dans les classes d'instruments à cordes frottées au sein du DML. Quoi.
Et donc, comment on devient luthier ? Il y a des écoles spécifiques ?
Oui. Ouais. Alors, en gros, dans tous les pays où la lutherie du quatuor est traditionnelle, donc la lutherie du quatuor, c'est toute la famille du violon, hein, donc violon, alto, violoncelle, contrebasse par extension. Donc, dans tous les pays où la lutherie est traditionnelle, il y a au moins une école. Donc, en France, évidemment, il y en a une. En Italie, il y en a plutôt trois. Belgique, Allemagne et Angleterre.
Et donc, en France, elle se situe où ?
Alors, à Mirecourt, c'est dans les Vosges. C'est vers, un peu au sud de Nancy, quoi. Ouais. Alors moi, personnellement, j'ai étudié en Belgique, pour le coup.
D'accord. Ça dure combien de temps, à peu près ?
Alors, normalement, les cycles, c'est 3 ans pour la construction. Et on peut faire une année supplémentaire pour la restauration, mais ça, c'est pas obligatoire.
Et vous l'avez fait ?
Moi, oui. Ouais, ouais. Ben, c'est vrai que savoir construire un instrument, c'est une chose. Savoir le restaurer, ça en est une autre. Et les techniques étant un petit peu différentes, c'est quand même bien de s'y former. Et puis, au-delà de ça, il faut quand même adopter une certaine déontologie, puisque là, on part pas d'un bout de bois pour en faire un instrument, mais on part de quelque chose qui est existant. Et donc, il faut pas trop nuire non plus à l'esthétique initiale et à la sonorité initiale, quoi.
Parce que c'est à la fois de la technique de l'artisanat, mais c'est aussi derrière, il y a quelque chose qui est pas forcément technique, quoi, qui est mis dans cet instrument.
Oui, oui, oui. Et puis, alors, il y a cette dimension-là, il y a un peu une personnalité de chaque instrument, bien sûr, mais après, la personnalité de l'instrument plus la personnalité du musicien, alors voilà, ça c'est une adéquation aussi qu'il faut trouver, et du coup, il y a des sonorités qui sont très différentes. Vous donnez un instrument, quelle que soit sa qualité, à un musicien, ça fera pas la même chose qu'avec un autre. Donc du coup, il faut en plus arriver à s'adapter quand on a l'instrument justement qui appartient déjà à un musicien. Il faut, quand on le répare ou qu'on le retouche, il faut absolument pas changer la globalité. Il faut que lui se sente à l'aise pareil après qu'avant. Quoi.
Alors comment on construit un violon ? Quelles sont les différentes étapes ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe ?
Ouais, vous avez 2 heures devant vous.
Non, mais on va essayer en accélérer.
Alors, on part en fait on choisit un modèle qu'on dessine, ou alors on utilise un modèle ancien qui est cohérent avec la sonorité qu'on cherche à avoir. On commence par tracer ce qu'on appelle un gabarit, donc ça nous fait le contour de l'instrument. On construit ensuite ce qu'on appelle les éclises, donc c'est véritablement le contour. Et puis le fond de l'instrument, le dessus, on essaye de faire que les fréquences qu'on va utiliser soient cohérentes l'une avec l'autre pour avoir un timbre et une chaleur qui soit adaptée au résultat qu'on escompte, quoi. Et puis après, la sculpture de tête, alors ça c'est vraiment, là c'est de la décoration, ça n'a pas en premier lieu d'utilité sonore. Mais par contre, ça va générer un équilibre global qui est important. Donc voilà. Et puis ensuite, il y a une grosse phase de finition. Donc ça, c'est vraiment esthétique. Et puis le vernis. Alors le vernis, ça, c'est aussi quelque chose qui prend des temps et des temps parce qu'il y a plusieurs sortes de vernis qui sont utilisables donc en fonction du son qu'on veut produire. Et donc les temps d'application ne sont pas les mêmes, les temps de séchage, etc., etc.
En termes de bois, vous travaillez avec des variétés différentes ou il y a vraiment une variété spécifique pour les violons ou...
Alors en fait, c'est la lutherie du quatuor, c'est vraiment une science, si j'ose dire, qui est très empirique. Donc du coup, ont été essayés beaucoup, beaucoup d'essences au cours de l'histoire. Par contre, étant un instrument traditionnellement occidental, on utilise en fait des essences qu'on avait sous la main. Donc maintenant, après les essais qui ont été faits au cours des temps, on utilise de l'épicéa pour la table, donc le dessus de l'instrument, et de l'érable pour tout le reste. L'association des deux essences est indispensable en fait, parce que le fait de mettre deux essences de bois différentes avec des duretés différentes et des réactions mécaniques différentes, on a une richesse sonore qui est amplifiée. C'est comme pour l'espèce humaine, quoi. Le métissage est toujours bénéfique.
Sur la partie forme, etc., quand vous dites qu'on peut avoir des sons différents, des sons recherchés, comment ça se matérialise, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu...
Alors la difficulté est là, justement, ça ne se matérialise pas.
Oui.
Donc du coup, on va avoir des sons qui vont être parfois plus chauds, c'est-à-dire quelque chose de moins percutant pour l'oreille, donc qui vous fait un peu moins hausser les épaules, là. Et donc un timbre un peu plus suave. Et puis de notre côté, on peut avoir justement des choses qui sont plus percutantes et du coup avec des volumes sonores qui sont un peu plus conséquents, quoi.
Ça veut dire que de grands musiciens, etc., peuvent avoir plusieurs violons pour avoir différentes impressions sonores.
Mais c'est assez courant que les grands solistes aient plusieurs instruments de facture, voire d'origine complètement différente. Oui, bien sûr. Oui.
Est-ce que, je vous avais posé la question cet été, mais je la repose, vous n'utilisez pas de ressources locales dans la fabrication de vos violons?
Malheureusement, c'est pas possible, en fait, parce que les essences qu'on va avoir localement et surtout leur vitesse de grandissement est incompatible, en fait, avec la facture, dans la mesure où on est sur des terrains qui sont quand même un petit peu trop... riche, finalement, et où les températures hivernales sont pas suffisamment basses, ce qui fait que les arbres ont tendance à grandir un petit peu trop vite, et du coup pour nous c'est pas le plus intéressant pour la facture.
On dit souvent donc que la référence c'est le Stradivarius. Oui. Est-ce que chaque luthier recherche à faire son Stradivarius, entre guillemets, c'est recherche une perfection ou
Oui, on cherche tous une certaine perfection. Après, il n'y a pas deux luthiers qui ont la même notion de la perfection, justement. C'est justement quelque chose qui est extrêmement subjectif. Donc du coup, et c'est ça qui fait que c'est intéressant aussi, et du coup, tout le monde recherche un certain idéal, mais qui est pas du tout commun, quoi, je dirais. Après, les Stradivarius, effectivement, on a tendance à penser que ce soit un instrument qui est supérieur ou voire suprême, remis dans son contexte, c'est un instrument qui effectivement est très bien fini. C'est un luthier qui a beaucoup œuvré pour travailler à un modèle, avoir un degré de finition et un vernis qui soit quand même très très élaboré. Maintenant, dire que c'est cet instrument-là qui a la suprématie sonore, au risque d'en froisser certains, pour moi, c'est une aberration. Parce que, justement, c'est la diversité, encore une fois, qui fait que c'est intéressant. Et on ne peut pas dégager un seul instrument. C'est des instruments qui ont des très belles sonorités. C'est pas, ça, c'est indéniable. Mais il y a beaucoup d'autres instruments qui ont des très belles sonorités.
Et alors, pour revenir un peu à la question de Guillaume tout à l'heure, sur cet aspect pas matérialisable, quand un client vient vous voir pour un violon, il vous faut l'entendre pour pouvoir créer ou restaurer?
Alors, quand le musicien a lui-même déjà une idée assez précise de ce qu'il veut, généralement, s'il ne sait pas, là, effectivement, on est là aussi pour conseiller les gens et pour essayer de leur trouver quelque chose qui soit le plus adapté possible. Donc là, effectivement, ça passe par l'audition. On ne peut pas... moi, je ne peux pas conseiller quelqu'un si je ne l'ai jamais entendu jouer et si je ne sais pas quel instrument lui conviendra le mieux. Après, quand un musicien va voir un professionnel pour lui demander de lui fabriquer un instrument, généralement, il a déjà joué, vu les instruments de cette facture-là. Même si on choisit un modèle et une sonorité un peu différente, on a quand même une patte globale qui est esthétique et sonore.
Et vous sauriez définir la vôtre, justement ?
Ouh, c'est difficile, ça.
Ouais, c'est difficile, bien sûr.
Surtout de se juger soi-même.
Ça, oui, c'est ouais, bien sûr.
Je ne sais pas si c'est réussi. En tout cas, j'essaye de faire quelque chose de justement assez des sonorités assez chaudes et pas forcément très très puissantes. Voilà, c'est ce qui me parle moi. Après, voilà, c'est pas ça vaut pas pour tout le monde. Est-ce que c'est réussi ou pas, ça, c'est autre chose.
Combien de temps il faut pour fabriquer un instrument ?
Alors un violon, c'est à peu près un mois de travail, sans compter le vernis. Donc juste fabriquer l'instrument et qu'il soit prêt à être verni.
En y travaillant
En faisant que ça, quoi.
En faisant que ça.
Ouais. Et donc, évidemment, les travaux d'atelier sont entrecoupés d'autres activités. Donc, il y a tout l'entretien qu'on fait, les restaurations, les petits bobos sur les instruments. Donc, c'est toujours beaucoup plus long que ça, quoi.
Et donc, vous en produisez combien par an ?
C'est très variable, en fait, parce que il y a des années où il y a des commandes de neuf, ce qui est quand même relativement rare. Donc là, je construis quand même toujours quelques instruments dans l'année. En moyenne, j'en fais peut-être, je ne sais pas, deux ou trois, mais c'est pas, j'en fais pas beaucoup plus que ça, quoi.
D'accord.
Ça a un aspect magique, hein, je veux dire, cette boutique dans Mende, je sais qu'elle fait rêver plein de gens. Enfin, Eric nous a proposé votre venue parce que voilà... Vous avez quand même un métier fabuleux.
Oui, c'est vrai que c'était justement aussi un choix de ma part de faire... Généralement, les ateliers ne sont pas visibles. Mm-hmm. Et justement, le fait que ce soit à la vue de tous, et j'ai choisi d'avoir une vitrine ouverte et que les établis soient visibles et qu'on voit véritablement les gens... Enfin, je dis les gens, en fait, il n'y a que moi, hein, mais travailler, parce que justement, ça donne une dimension... Un peu moins mystique, si j'ose dire. Mais voilà, c'est vraiment... Il y a beaucoup de... c'est comme vous disiez, c'est un métier qui fait un peu rêver et où on a l'impression qu'il y a des choses qui sont un peu surnaturelles. Mais voilà, le fait de le voir...
Ah oui, c'est très réussi, moi, je trouve. De pouvoir vous voir travailler, c'est vraiment super.
Oui, on dirait un peu... Oui, c'est un peu un mélange entre l'artisan et l'artiste, quoi. Ça fait un peu ça, ce métier, des fois.
Oui. Alors après, par rapport à vraiment de l'art pur et dur, c'est pas de l'art qu'on fait nous. Vraiment, on n'a pas de démarche artistique dans notre travail. C'est-à-dire que voilà, on fabrique un instrument qui doit avoir une sonorité qu'on choisit ou voilà. Mais il n'y a pas de démarche artistique comme un peintre qui va faire quelque chose ou un sculpteur. Voilà. Nous, on est artisan d'art certes, mais c'est pas de l'art. Au sens où, en tout cas, moi, je le conçois, quoi.
Alors, Ilan, tout à l'heure, avait une question qui était de dire, est-ce qu'il faut être musicien pour
être luthier.
Oui.
Ouais. Être musicien, il faut savoir jouer un petit peu pour pouvoir juger les instruments et surtout pouvoir les régler. Maintenant, il n'y a pas besoin d'être un grand soliste pour faire ce travail-là. La deuxième chose, c'est que pour être violoniste, si on prend cet exemple-là, il faut un investissement vraiment total parce que ça demande beaucoup de travail. Arriver à construire un instrument correctement, ça demande un investissement total aussi. Donc du coup, faire les deux, c'est quand même assez délicat.
Il n'y a pas celui qui joue sur son instrument. Ça, c'est dans les grandes stars, on n'a pas ce type de... Ça non, pourrait être un argument.
Oui, tout à fait. Ah, c'est vrai que dans toutes les écoles de lutherie, moi, quand j'étais à l'école, il y a eu au moins deux étudiants qui étaient véritablement des musiciens aboutis et qui ont choisi de faire la lutherie. Et en fait, ils ont fabriqué un instrument, leur instrument. Et puis, une fois que c'était fait, voilà, c'était bon, quoi.
D'accord.
Donc, c'est pas le même métier. Enfin, ouais, nous, on est... Voilà, il y a les musiciens d'un côté et puis les luthiers de l'autre, mais c'est pas...
Mais ça veut dire que vous avez quand même appris quelques rudiments...
Oui, bien sûr. Voilà, il faut savoir, oui, quand même, un minimum...
Vous avez lâché la guitare adolescente pour...
Ouais. Assez rapidement, oui, en fait.
Et la guitare, justement, vous n'en avez jamais fabriquée ?
Non, pas du tout, non. C'est pas du tout les mêmes instruments et c'est pas... au niveau structurel, ça fonctionne pas du tout pareil. Du coup, je serai dans la capacité technique de faire une caisse de guitare. Maintenant, faire un instrument qui sonne, ça, c'est autre chose. Donc voilà, c'est dans la mesure où les structures et les tensions sont pas les mêmes, c'est pas le même travail. Donc non, moi, je serais pas capable d'en faire une et j'en ai jamais fait.
Et c'est, enfin, ça veut dire que c'est d'autres. On appelle les luthiers aussi les.
Oui.
Mais
oui.
Donc c'est une autre branche de...
Oui, c'est ça. C'est pas les mêmes écoles. On peut apprendre... Il y a des écoles où on apprend la lutherie du quatuor à cordes, des écoles où on apprend la lutherie guitare, etc.
D'accord.
Voilà. Et alors justement, vous nous avez parlé du quatuor. Vous faites autre chose que des violons ?
Alors moi, je travaille sur les viols de gambe aussi. Je ne sais pas si ça vous parle.
Ouais. Ouais.
Donc c'est un espèce de violoncelle entre guillemets. Hein. C'est pas du tout la même famille. Mm-hmm. Donc du coup, on peut pas faire le parallèle entre les deux. Mais bon, c'est un instrument Renaissance qui est fretté, qui est souvent extrêmement décoré. Mm-hmm. Et voilà, donc je travaille aussi là-dessus. Ouais.
Je crois que vous avez un projet particulier en ce moment en cours.
Oui. Alors en fait. J'avais envie de travailler là-dessus depuis longtemps. Pendant la première guerre, dans les tranchées, il y a eu un des plus grands solistes que le 20e, la première moitié du 20e en tout cas, est connu, qui s'appelait Maurice Maréchal, qui était dans les tranchées avec deux amis à lui, qui étaient vraisemblablement menuisiers, et qui lui ont... construit un instrument de fortune dans des morceaux de caisses de munitions et des morceaux de portes et de fenêtres. Enfin, ils ont bricolé quelque chose avec les moyens du bord. Donc ça donne un instrument qui est un peu avec des lignes un peu anguleuses. Ça fait un peu Picasso là, comme style. Et du coup, voilà, j'ai fait une réplique. Alors c'est pas une réplique à l'identique, hein, c'est inspiré de l'original, mais un peu rebricolé pour que ce soit justement plus facile à jouer et que ce soit un peu plus sonore, disons. Et donc j'ai fait une réplique de cet instrument. Et l'idée, c'était de faire jouer l'instrument par une violoncelliste. Et de faire des auditions lecture, en fait, donc avec des textes qui, là, j'avais proposé de faire ça à Héloïse, la libraire de la lorgnette, qui du coup a sélectionné des textes pour mettre sur l'audition de l'instrument, quoi. Mais il n'y a pas de date encore arrêtée, parce qu'il faut arriver à ce qu'on se cale tous. L'instrument maintenant est fait, mais il faut qu'on arrive à faire cohabiter le son et l'image et tout ça.
Et le texte, très bien, ben voilà un projet en tous les cas qui se prépare.
Voilà, mais là pour les mandois, il y a en tout cas dans la vitrine de l'atelier, j'ai justement, donc l'instrument est visible. Alors il n'y est pas en permanence parce que là en ce moment avec le soleil qui tape à travers la vitrine pour l'instrument c'est un peu compliqué. Mais en tout cas il est pas loin derrière, donc si vous voulez voir l'instrument. Et puis j'ai mis quelques photos et... une partition, enfin ouais, deux, trois bricoles qui
l'original se trouve où ?
À la Cité de la Musique à Paris. Alors c'est un instrument...
Il a survécu
Ouais, il a survécu. Après, il est vraiment dans un état... il est vraiment abîmé maintenant. Mais il n'est pas visible. C'est rare qu'il les sorte des réserves, quoi. On ne le voit pas souvent.
Et pour le coup, c'est un très beau projet pour le centenaire de la fin de la guerre.
Voilà, et bien alors en fait, c'est pour ça aussi qu'on l'a fait maintenant et que j'ai essayé de qu'on se dépêche un peu pour pouvoir le faire justement en étant encore dans le centenaire.
Ah ouais, c'est chouette.
Ouais. Très bien, mais on va se diriger. Alors peut-être on peut dire avant la pause musicale un peu comment on peut retrouver vos contacts, vos créations, vos...
Oui, alors il y a un site internet qui est c'est luthier-dumas.fr. Mm-hmm. Donc là vous devez tomber dessus normalement. Il y a une page Facebook aussi, mais je suis pas très très assidu du coup, voilà. Et sinon l'atelier est au 19 de la rue droite pour les mandois ou les non-mandois qui connaissent le secteur. Et voilà, après, c'est toujours bien de passer un petit coup de téléphone avant de venir jusqu'à l'atelier, parce qu'il y a des horaires qui sont un peu parfois flexibles.
Très bien. Bah, merci en tous les cas d'être venu nous parler de ce métier, de nous avoir fait rêver. Alors avant de poursuivre l'émission, évidemment, vous allez rester avec nous. Alors peut-être on peut demander d'abord à Ilan, est-ce qu'il aurait envie d'être... d'être luthier, est-ce que ça t'a donné envie d'être luthier ?
Je sais pas.
Bah, c'est la question piège. Hein,
est-ce que tu es musicien, Ilan ?
J'essaye d'apprendre un peu la guitare, mais je suis pas très bon encore.
Bon, bah, voilà, à suivre, ça se pourra. À suivre. Bon, alors maintenant, c'est la coupure musicale, on y arrive. Et donc, comme d'habitude, c'est le choix de l'invité. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi ?
Alors, j'ai choisi un morceau qui s'appelle Minor Swing, qui est bien connu de tous les amateurs de jazz manouche, comme on dit. Donc là, c'est la, une des toutes premières versions qu'ils ont enregistrées. Je crois même que c'est la première version. Et j'ai une admiration sans limite pour Stéphane Grappelli, donc qui est le violoniste de ce duo. Et donc, voilà, c'est coécrit avec Django Reinhardt.
Allez, on écoute.
Non, c'est juste, je voulais revenir. C'est vrai que quand on pense violon, on pense souvent classique. On parle pas souvent des autres styles. Donc là, on vient de voir un autre style. Je sais qu'une fois, j'avais vu un reportage où c'était pareil. C'était un grand virtuose qui allait pareil aux États-Unis pour montrer qu'on peut, pour la country, qui partait en Inde pour faire tous ces sons. Ouais. Vous avez d'autres sons comme ça ou c'est surtout pour le classique que...
dans mon travail, vous voulez dire ?
Oui.
Non, en fait, les instruments, on fait pas de, il y a pas vraiment de, on travaille pas dans une direction par rapport à la destination de l'instrument, si vous voulez. On va changer quelques réglages pour que ce soit plus facile à jouer pour un certain style, mais après sur la forme de caisse et le son qu'on veut donner, on fait un peu toujours pareil en fait. Mais Grappelli, du coup, jouait sur un instrument moderne, lui. Il a joué longtemps sur un vieil instrument italien et qu'il a pas gardé longtemps parce que justement le son correspondait pas vraiment à, pas vraiment à ce qu'il escomptait et ce qui était utilisable vraiment pour cette musique. Donc il jouait un instrument moderne, qui est aussi la Cité de la Musique en l'occurrence.
Très bien, merci en tous les cas de
vous
cette...
Vous nous disiez pendant la musique, oui. Parce qu'on bavarde, on ne fait pas qu'écouter,
et
vous
on
êtes
fait
encore
pas que manger.
130 luthiers en France.
Oui, ouais, c'est à peu près ça, ouais, le compte. Après, il y a des gens qui travaillent en lutherie qui ne sont pas forcément référencés, donc ça doit faire un petit peu plus, mais à la louche, c'est ça, quoi, ouais.
Bien, Eric, c'est le moment de ta chronique. Oui. Donc, nous parlons de groupes citoyens, c'est ça ?
C'est ça. Pour moi, les grands absents de cette élection présidentielle restent les mouvements citoyens, pour lesquels pas un seul de leurs représentants n'est parvenu à obtenir les 500 signatures nécessaires, malgré un intérêt certain et grandissant. Voilà. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore, je vais essayer de vous parler de ces mouvements, pour lesquels le but est le plus souvent de recréer du vivre ensemble. De la solidarité. Donc, ils sont souvent nés de constats simples. Les Français sont toujours intéressés par la politique, mais éprouvent de plus en plus un réel dégoût des représentants de cette politique. Et c'est pour cette raison que donc des mouvements citoyens sont créés. Alors, certains aimeraient réduire ces mouvements à de la bobologie. Moi, j'y vois plutôt des solutions concrètes pour améliorer donc les façons de gouverner avec des initiatives. Alors, ce qui caractérise peut-être le plus ces mouvements, c'est l'idée de faire remonter au niveau national, les initiatives qui marchent au niveau local. Donc, par exemple, c'est comme ça un peu qu'ont été créées les AMAP pour faire des circuits plus courts ou les monnaies locales. En fait, ce sont ces mouvements-là souvent qui ont créé tous ces liens-là. En fait, donc chaque mouvement est spécifique. Ils ont vu le jour souvent en vue d'élections. Alors, par exemple, il y en a un où pour faire pression sur les dirigeants politiques. Il y en a un, par exemple, qui s'appelle la Manif pour tous. Mais celui-là, par contre, je n'ai pas encore très bien compris le concept. Alors après, il y en a d'autres qu'on peut retrouver qui ont créé des partis politiques comme Nouvelle Donne. Nouvelle Donne, ça vient du mouvement Roosevelt, qui lui-même venait du mouvement d'un livre dont j'ai parlé, qui s'appelait Indignez-vous. Ils ont fait Roosevelt après. Et donc maintenant, dans ce parti politique de Nouvelle Donne, il y a des personnes, des mouvements politiques, des personnes de la société civile. Je peux en parler de tout ça.
Pour le moment, j'ai... Très, très, très borderline, il me semble.
Pour le moment, j'ai rien dit. Ils n'y sont pas, aux élections.
Je sens Guillaume très inquiet.
Ils n'en sont pas. Bien. Non, mais je dis. Il y a un autre mouvement que j'ai trouvé très bien aussi, c'était le mouvement le citoyen du vote blanc. C'est qu'en fait, ils proposaient donc à des personnes de représenter ce mouvement-là pour que le vote blanc puisse avoir une vraie représentativité. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, les gens disent « Ouais, moi, je vais voter blanc, mais ça sert à rien de voter blanc. » Au contraire, le vote comme ça deviendrait vraiment utile. Donc voilà, c'est le genre de partis politiques qui ont été créés. Alors, après, pour certains autres mouvements, ils ne sont pas allés jusqu'aux politiques, ils sont restés... force de persuasion. Ils essayent de devenir force de persuasion. Il y a comme les colibris. Donc j'avais parlé aussi du film Demain, qui vient les colibris, qui eux essayent de donner plus des missions. Ils ont pour mission d'inspirer, de relier et soutenir les citoyens dans leurs initiatives collectives et individuelles de transition. À Nuit Debout aussi. Eux, par contre, en ce moment, ils se concentrent sur la création d'un jury citoyen, un jury populaire, pour essayer de faire changer les choses politiques. C'est le cas également de Parlement et Citoyens. Eux, ils fonctionnent grâce à une plateforme Internet où les députés peuvent faire des propositions de projets de loi et où les citoyens peuvent directement participer et dire ce qu'ils pensent de la loi et essayer de juger tout ça. Alors, s'il y a ça, c'est Internet, ça a réussi justement à se faire développer ce genre de mouvement citoyen. C'est-à-dire que Internet permet un développement beaucoup plus rapide et de toucher plus de personnes. On n'est pas obligé d'être proche pour pouvoir participer à ces mouvements-là. Après, le problème qu'ont ces mouvements-là, c'est qu'ils sont très peu... ils utilisent très peu les médias, ou en tous les cas, les médias classiques n'en parlent pas beaucoup, c'est-à-dire qu'ils parlent tellement des frasques de nos politiques actuelles qu'ils ne peuvent pas parler de ce qui se passe à côté. Et après, il y a autre chose aussi, c'est le financement. C'est-à-dire que le financement, c'est que quand on voit le prix d'une campagne présidentielle, par exemple, c'est un financement qu'ils n'arrivent pas encore complètement à avoir tous. Après, ils ont eu du mal. Donc, médiatiquement, ça se voit aussi par rapport à certains autres pays. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Podemos. Podemos en Espagne, ça fait partie maintenant des deux, trois plus grandes forces politiques espagnoles. Ils ont réussi, eux, à surfer sur la vague des indignés. Alors qu'en France, on a l'impression qu'on ne peut pas y arriver, qu'on a toujours besoin de l'homme ou de la femme providentielle pour pouvoir y arriver. On n'arrive pas à faire vraiment comme ça de ce genre de groupe. Alors, j'ai réussi à trouver quand même un exemple de personnes qui avaient réussi. Donc, je vais vous parler de Saillant. Alors, Saillant, ce n'est pas un village d'irréductibles gaulois. Non, c'est un village de la Drôme. Donc, suspendu aux pentes du Vercors. Alors, tout a commencé.
C'est un joli petit village. Ouais.
Ça a commencé par un projet de supermarché qui menaçait le bien-vivre au pays. Le maire était pour, les villageois, les habitants contre. Donc, ils ont décidé de créer un mouvement, justement. Ils se sont présentés aux élections municipales et miracle, donc les gens n'ont pas voté pour des personnes, mais pour des idées, pour un contenu. Ils ont validé une méthode de gouvernance. Leur liste a gagné et depuis, la révolution participative est en marche. Alors, depuis qu'ils ont pris les rênes de la mairie, il y a référendum, assemblée, ça rythme leur quotidien. Alors, au début, ils ne connaissaient rien à la démocratie participative. Donc, ils ont donc décidé de ne pas partir de la théorie, mais de considérations pratico-pratiques. Alors forcément, il y a encore des personnes que ça rebute un peu, puisque là, ça a fait participer beaucoup de néo-ruraux, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est les gens qui venaient de l'extérieur, qui venaient un peu prendre le pouvoir, entre guillemets. Il y a aussi, pour les intercommunalités, ils ont un peu de problème à être associés avec les autres villes. C'est-à-dire que tous les politiques qui sont là depuis 30 ans, ils ont un peu peur de perdre leur place. Mais donc voilà, ça se met en place et ils deviennent un petit laboratoire ouvert à tout le monde, comme quoi c'est possible. Donc on le voit, en fait, le dernier défi de ces mouvements, en fait, c'est de réussir à rassembler au-delà des militants, en fait. Parce que c'est vrai que les militants commencent à connaître ces mouvements, mais on voit que le peuple en général, ou la population en général, a du mal à y adhérer. On a encore cette idée, voilà, comme je disais tout à l'heure, d'attendre la réponse d'une personne providentielle. Alors qu'en fait, tout peut venir de nous. Donc voilà, je terminerai juste en reprenant ces mots d'Émilie Loiseau, qui porte bien son nom, justement, parce que dans les mouvements, on parle souvent d'écologie et de ce genre de choses, qui confiait, donc, on est tous de passage. Et même si c'est très fugace, cette poussière d'étoiles laisse une empreinte. Face à une réalité souvent morbide, ringarde et has-been, notre parole collective est cruciale. Donc voilà. Par les temps qui courent, donc, c'est un vaste programme, tout de même.
Très bien, ben merci Eric pour ce programme.
C'est drôle parce que au dernier marché mensuel de la MAP, là, qui n'est pas un marché d'ailleurs, hein, la dernière distribution, il y en a une par mois qui réunit tous les producteurs et donc un grand nombre des foyers qui sont adhérents à la MAP. Il y avait bien sûr une conversation autour d'un petit pique-nique sur ces élections à venir et les inquiétudes qu'elles pouvaient générer. Et quelqu'un a dit, mais il y a peut-être d'autres façons de faire la politique. Regardez, nous, à la MAP, ce qu'on fait autrement. Donc ça résonne bien avec ce que tu viens de nous dire. Et je vous encourage, hein, la MAP, c'est donc une fois par mois le grand marché, enfin, ou la grande distribution. Et à partir des légumes de juin, c'est toutes les semaines. C'est à la Halle Saint-Jean, le mercredi, entre midi et demi et 13h30. N'hésitez pas au moins à venir voir et à discuter.
C'est les personnes qui font de l'agriculture autrement, qui proposent autrement, qui font de la distribution autrement, des circuits courts. Donc c'est ce que je disais, c'est de faire
une grosse réflexion
locale,
citoyenne globale, quoi, c'est sûr.
Allez. Merci. Donc voilà, la MAP, un contact tant qu'on y est.
Donc la MAP du Gévaudan, le siège social c'est 10 boulevard du Soubéran et un téléphone le 06 23 03 02 64. Et donc le mercredi, le prochain marché est le 26 avril, donc à midi et demi à la Halle Saint-Jean.
Merci Caroline. Une virgule et on revient avec toi. Allez, on est reparti pour cette deuxième partie d'émission avec la chronique de Caroline.
Alors moi, j'avais envie de vous parler d'une voix que j'ai entendue là, ce lundi de Pâques, une voix que je connaissais et que je connaissais grâce au Théâtre de la Mauvaise Tête à Marvejols et à sa semaine de la poésie qui avait lieu chaque année à peu près à cette période. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en remettre une couche pour dire cette déception d'avoir vu ce phare un petit peu de la culture lausérienne s'éteindre en juin l'année dernière. Ça va faire un an, et ça va faire un an que du côté de Marvejols, on vit un peu dans un désert culturel. Donc j'ai entendu Laurent Godet hier, il avait été à plusieurs reprises, et ses textes ont été à plusieurs reprises les invités du Théâtre de la Mauvaise Tête, donc ça m'a fait plaisir de l'entendre. C'est quelqu'un qui traite de thèmes pas très gais, mais qui a, de par sa voix chaleureuse et de par sa façon de voir le monde, quelque chose d'assez lumineux. Donc voilà, je me suis dit que c'était aussi une façon de parler politique sans en parler. Laurent Godet, c'est quelqu'un qui va sur les théâtres de guerre, qui a écumé plusieurs camps de réfugiés en Afghanistan, en France, à Calais, où il est allé très régulièrement. Et il a un regard sur ces réfugiés, sur ces humains qui est touchant et puis qui nous confronte un petit peu à notre égoïsme et à notre réalité. Donc voilà, j'avais envie un peu de vous en parler. Alors il sort un recueil de poésie en 2017. Alors Laurent Godet, pour rappeler à ceux qui ne connaîtraient pas ou qui connaîtraient mal, c'est d'abord un auteur de théâtre. Sa première pièce a été publiée en 1997, Onisos, le furieux, qui a été joué au Théâtre national de Strasbourg en 2000. Le texte était paru en 1997. Un premier roman, Cri, en 2001. Le prix Goncourt des lycéens en 2002 avec La mort du roi de Songor. Et le prix Goncourt qui a suivi en 2004 avec Le soleil d'Escorta. Et en 2015, un huitième roman qui paraît, Danser les ombres, avant donc ce recueil de poésie qui paraît là ce printemps et qui s'appelle, pardon je m'y perds, De sang et de lumière, hein, et qui est ce voyage au cœur de la misère de l'humanité et de ses réfugiés. Voilà, il a une très très belle façon d'en parler, de parler aussi de cette honte qu'il a, c'est quelqu'un qui est foncièrement européen, hein, qui n'est pas du tout contre l'Europe, mais qui dit la honte qu'il a d'être un Européen d'aujourd'hui avec ce refus qu'on a de l'autre. Il le dit de très belle manière, bien mieux que moi. Donc voilà, je vous encourage à aller retrouver ses textes. Il a fait quelque chose il n'y a pas très longtemps, quelques années, qui est à retrouver sur Internet, pour ceux qui n'ont pas envie de lire. Il y en a. Donc, il a travaillé dans un camp avec des enfants. Et il y a des vidéos de tout ça. Les enfants disent ces textes. C'est magnifique. Ça peut se retrouver sur Internet. Et c'est vraiment quelque chose de beau. Et bon, je pense qu'en cette semaine préélectorale, ça peut être quelque chose qui peut aider à réfléchir. Donc voilà, petit conseil de lecture, là, d'ici dimanche, Laurent Godet, soit ses romans, soit ses poésies, soit ses vidéos sur Internet. En tout cas, ne vous privez pas.
Ouais, on retrouvera ça, j'imagine, sur le Facebook de l'émission.
Tout à fait. Alors n'hésitez pas, il a une très très belle voix en plus. Il a une voix très chaleureuse, très agréable. Et l'entendre dire lui-même ses textes, c'est quelque chose de superbe.
Très bien. Allez, une petite virgule et on passe à hashtag. Allez, c'est le moment de hashtag, la chronique maintenant, auquel on s'attend à chaque émission. Au programme aujourd'hui...
Tu vas nous faire du hashtag en arrivant à ne pas nous parler politique, Guillaume ?
Alors tout d'abord, je vais vous parler d'une vidéo qui a eu un retentissement très très important sur les réseaux sociaux ce week-end. C'est un reportage de TF1 One, donc un service sur le net, qui est un reportage dans un restaurant qui s'appelle Le Reflet à Nantes, qui est le premier restaurant en France à employer des personnes trisomiques. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu dans leur...
ça a beaucoup tourné,
effectivement. Dans leur,
mais il y avait déjà eu la météo qui avait été présentée.
Voilà, mais alors, justement, c'était ça que je voulais justement rebondir là-dessus, puisque effectivement, la météo, dans le cadre d'une campagne de communication de l'ADAPI, il y avait eu donc la participation d'une jeune trisomique qui avait pu présenter la météo sur France 2 et sur BFM. Je trouve dommage que justement ça soit juste un one shot un jour et qu'on lui ait pas proposé de le faire de façon récurrente parce que
elle l'avait
très bien fait, bon, avec certes de l'émotion, mais qui de nous n'aurait pas eu un peu d'émotion en allant présenter la météo devant 6 ou 7 millions de téléspectateurs.
On va y avoir un petit bruit, c'est Eric qui va prendre sa tranche de jambon parce que là il souffre.
Voilà.
Voilà.
Et donc là l'inverse, le projet du Reflet, eh bien un projet
dans la durée,
avec à la fois des équipes de cuisine et des équipes de service qui sont entièrement trisomiques et qui travaillent là-dessus, avec un certain nombre de modes de fonctionnement qui ont été adaptés. La vaisselle aussi a été adaptée. Enfin, voilà, c'est vraiment un bel exemple et je trouve qu'effectivement la télé française s'est enorgueillie d'avoir fait cette ouverture là, mais qui en fait n'en est pas une puisque elle a été aussi vite ouverte que refermée. Et je trouve que voilà, cet exemple est vraiment intéressant à regarder. Et donc voilà, c'était
alors du vivre ensemble dont on parle.
Voilà, voilà un peu le petit lien par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et puis alors les mots dièse de la semaine, effectivement beaucoup 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 de politique ce dernier week-end, avec des grands rassemblements qui ont eu lieu.
Des fois, c'est pas assez de politique. Hein.
Oui,
c'est beaucoup de l'extra-politique, plus que de la politique. Hein.
Oui, c'est
des fois,
c'est
la difficulté. Il n'y a pas trop de débats d'idées, des fois.
Après, voilà, faut quand même se dire, effectivement, il y a eu quand même quelques grands meetings ce week-end qui ont contribué, dans cette période effectivement de fin de campagne, à alimenter de façon très 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 importante les réseaux sociaux et dans différents camps. Donc voilà, je n'allais pas aujourd'hui vous faire le décompte, vous avez compris pourquoi. Et puis en Lozère, deux hashtags qui ont plutôt marqué les choses dans
le
week-end.
Il y en a un qu'on avait prédit.
Qu'on avait prédit, effectivement.
Lors de notre dernière émission.
C'est le 48 images, hein, donc le festival 48 images secondes qui a battu son plein la fin de semaine dernière à Florac. Et puis également un certain nombre de tweets autour du congrès national de l'UCEP qui a eu lieu à Mende et qui a rassemblé donc des représentants donc de cette union du sport dans l'enseignement primaire dans de très nombreux départements de France, qui étaient rassemblés donc
toute
la semaine dernière avec une émission de 48FM qui était vendredi, que vous pouvez bien sûr réécouter pour en savoir plus. Mais voilà un peu les deux moments clés. Il reste toujours le tourisme qui reste un bruit de fond, on va dire, de cette période de printemps sur les réseaux sociaux lozériens. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu d'autres hashtags. Non,
en matière touristique, moi, ça me fait sourire chaque fois parce que le département décline, et il a bien raison, hein, les atouts lozériens. Mais alors, un coup, la Lozère est faite pour les motards, un coup, elle est faite pour les camping-cars, un coup... ça me fait chaque fois... Mais en tout cas, la campagne est omniprésente et c'est ça qui est important pour notre département.
Très bien. Tout de suite, ça va être la deuxième pause musicale. Et donc, comme Eric parlait d'Émilie Loiseau tout à l'heure, nous écoutons Émilie Loiseau.
Je m'en vais à l'autre bout du monde. n'étais pas mort, je vivais à l'autre bout du monde. L'autre bout du monde. L'autre bout du monde.
C'est la fin de cette émission avec la revue de presse et on commence avec Eric. De quoi vas-tu nous parler ?
Alors moi, je ne vais pas faire de revue de presse aujourd'hui.
Ah, d'accord.
Je reviens un peu. Ça revient un peu sur une petite enquête. C'est une sorte d'enquête. Je sais pas. En fait, voilà. Donc, c'est dans toutes les parties du monde où les gens sont chaussés, des chercheurs et des citoyens constatent la forte prévalence d'un syndrome de la chaussette orpheline ou missing sock disorder syndrome. Selon l'appellation en vigueur dans les revues scientifiques anglophones. Oui, la disparition des chaussettes intrigue. Et l'impossibilité de les retrouver inquiète d'autant plus. Dans un monde rationnel et organisé, ces événements qui touchent à l'intime nous confrontent à la pensée magique et au paranormal. Bon, sur cette question critique, les explications les plus farfelues sont légion sur Internet. On parle aussi de trous noirs et d'univers parallèles. De divinité du linge et de calamité textile. Certains affirment même que les chaussettes sont douées d'esprit et planifient consciencieusement leur évasion. Des philosophes, des sociologues, des artistes se sont de leur côté penchés sur la question. Bon, certains préconisent d'installer une caméra à l'intérieur de la machine à laver, mais la majorité évoque des forces magiques, ce qui rend une démonstration scientifique délicate. L'une des thèses que je trouve la plus probable et l'idée du leprechaun. Alors, le leprechaun étant, comme chacun ne le sait pas forcément, une sorte de lutin d'origine irlandaise qui garde précieusement le chaudron de pièces d'or au pied des arcs-en-ciel. Il volerait également les chaussettes et s'en servirait pour tricoter les arcs-en-ciel. Cela dit, cela n'explique pas pourquoi le leprechaun ne piquerait qu'une seule chaussette. En fait, c'est juste par pure méchanceté. Non, en fait. Après, il y a des solutions qui existent pour lutter contre ce syndrome. Alors, ne pas porter de chaussettes. Enfin bon, quand on habite en Lozère, le conseil est difficile à suivre. En plus, n'oublions pas que les chaussettes servent aussi à recueillir notre morale quand il est au plus bas. Bon, les transformer en marionnettes pour amuser les enfants. On peut aussi les faire parvenir à Marcia de Carvalho, créatrice de mode qui récupère les chaussettes orphelines pour les transformer en vêtements trop hype. Et elle fait même du social, en proposant à des femmes en difficulté de s'initier aux diverses techniques du travail textile. Bref, des théories ont pu surgir. Des pistes ont été envisagées, mais aucune explication satisfaisante n'a pu être donnée à ce phénomène. Faut-il pour autant renoncer à comprendre ? Je ne crois pas, et je continuerai mon enquête tant que je n'aurai pas trouvé la solution.
Il y a une autre solution, c'est de ne pas les laver, comme ça on est sûr de ne pas les dépareiller.
C'est ça, ou de faire des mono... que de la même couleur tout le temps. On achetait tout le temps la même couleur.
Ou les pieds droits pour une lessive et les pieds gauches pour une autre. C'est ça. C'est les éditions Winux hein, qui travaillent sur ce projet des chaussettes. Désolé, je ne sais pas si c'est ce que tu allais dire.
Pas du tout. Voilà. J'allais dans
c'est quelque chose de... prochain projet, hein, puisqu'on chacun pouvait ramener ses chaussettes orphelines pour un projet créatif des éditions Winux, hein, dont on connaît la prolixité en Lozère. Mmh. Donc voilà, c'est leur prochain projet, les chaussettes orphelines.
Non, je voulais parler sans doute d'une... Il me semble qu'Anne-Marie, dans ses nombreuses chroniques pratiques, avait traité cette question dans Actuel et lui, hein, notre précédente émission, et avec différents systèmes qui existent, de pinces, de petites pochettes dans lesquelles tu mettais deux chaussettes pour voir qu'elles disparaissent. Enfin, il y a beaucoup d'outils, il faudra qu'on retrouve ce texte d'Anne-Marie qui détaillait toutes ces solutions. Voilà.
En tout cas, c'est vrai que c'est un mystère.
Un vrai mystère.
Un vrai mystère.
J'étais voilà, dans le genre un peu théorie du complot.
Oui, carrément.
Merci Eric. Moi je voulais juste faire un petit écho, moi aussi, aux élections en cours.
Ah quand même.
Avec un article de Vice, le site internet, vice.com, donc avec un article sur comment les éléments de langage minimisent toute forme de violence sociale. Donc un article assez intéressant de Laura Reim qui explique pourquoi on parlait plus de plan de sauvegarde de l'emploi que de licenciement dans les grands médias, donc à retrouver évidemment sur le Facebook. Effectivement, on a toujours cette tendance un petit peu à des éléments de langage, à un langage politiquement correct, voilà, et finalement à peut-être pas forcément totalement dire vraiment les choses. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais n'hésitez pas à vous reporter à cet article qu'on mettra sur le Facebook lui aussi. Caroline ?
Oui. Alors moi, c'est une info de ce matin que j'ai retrouvée dans Le Monde, un article qui a été traité avec l'AFP sur la moitié des sites naturels de l'UNESCO qui sont le théâtre de braconnage ou de trafic de bois. Donc c'est le Fonds mondial pour la nature, hein, le WWF, qui tire la sonnette d'alarme. Près de la moitié des quelques 200 sites naturels classés au patrimoine mondial de l'UNESCO sont victimes de braconnage ou d'exploitation forestière. C'est un rapport qui est publié aujourd'hui. Donc l'ONG déplore que les espèces classées à la CITES, c'est la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction, sont victimes de prélèvements illégaux dans 45% de ces zones. Donc, d'après ce rapport, le braconnage des espèces vulnérables et menacées, au premier rang desquelles les éléphants, les rhinocéros et les tigres, est signalé dans au moins 43 sites du patrimoine mondial, tandis que des cas d'exploitation forestière illégale d'espèces végétales précieuses comme le bois de rose ou le bois d'ébène sont recensés dans 26 sites. Alors, il y a le problème du braconnage, mais ça met aussi en péril les espèces, bien sûr, hein, qui sont déjà menacées, mais ça met aussi en péril l'économie locale, en diminuant l'attractivité de ces sites pour les touristes qui souhaitent admirer les animaux dans leur environnement naturel. Le Fonds mondial pour la nature estime ainsi que le braconnage de l'éléphant prive chaque année le continent africain de 25 millions de dollars de recettes touristiques. Voilà, un papier à retrouver donc sur lemonde.fr. Et certainement dans l'édition du soir, j'imagine.
Très bien, merci Caroline. C'est donc la fin de cette émission. Merci à notre invité d'être venu. Peut-être une réaction à ces articles
Justement, quand vous parliez de l'histoire de l'ébène, là nous on est en tant que... On utilise des bois précieux aussi. Mm-hmm. Et du coup on doit... rendre compte de tous les morceaux de bois qu'on a, autant sur les instruments qu'en cours d'utilisation. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est important, surtout que nous, en fait, on pourrait tout à fait utiliser une autre essence qui, en l'occurrence, serait locale et qui ferait le boulot tout pareil.
Voilà, les solutions existent.
Très bien, mais merci à tous de votre présence. Les rediffusions le jeudi 19h et le mardi à midi et demi. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur la page Facebook de Los Actuali avec toutes les références qui correspondent à cette émission. Bonne quinzaine à tous. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Tu pouvais.
L'Oz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48 FM.
L'Oz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Oz Actuali, le nouveau magazine de 48 FM.